Colin, qui va gagner les prochaines élections? Hey, faut déjà commencer à en parler parce qu'aujourd'hui, on est le 6 août.
C'est dans deux mois, là.
C'est dans deux mois. C'est le 4 octobre, hein, je pense, les élections.
Ouais, de mémoire, là, c'est absolument le premier lundi d'octobre. Le 5 octobre.
5 octobre. On prépare quelque chose, encore une fois, une soirée électorale avec vous à Boulevard 102.1 qui sera rediffusée aussi au 99.5 Montréal. Fait qu'Alex Larameux, je te dis tout de suite que tu devrais participer à cette émission-là.
Ça ben, j'ai ça? Pas encore parlé à mon patron, là, mais selon ce que tu me dis, d'après moi, je book ma soirée. Là.
C'est ça, donc la soirée du 5 octobre, lundi 5 octobre, bouquez cela. Ça se peut qu'on fasse quelque chose d'un petit peu plus funny que nos dernières soirées électorales.
Funny, dans quel sens?
Bon, qu'on va faire de quoi avec des auditeurs. On est en train de réfléchir à ça.
OK, on brainstorm, j'aime ça.
Yes, on est en train de réfléchir à ça avec Steven Croiteau, notre excellent directeur à la programmation. Toi, Alex, tu nous l'as dit en onde, t'es quelqu'un qui prône pour le PQ. Fait qu'à mettons qu'on t'envoie dans le rassemblement du PQ, serait-tu le fun pour toi, ça?
Ben, moi, je suis un journaliste, hein, tu sais que je suis obligé d'être impartial. Mais c'est sûr que au-delà du PQ, moi, c'est sûr que la souveraineté du Québec, c'est un projet qui m'intéresse beaucoup. Et dans l'éventualité d'une soirée électorale, habituellement, tu veux être à l'endroit dans le rassemblement du parti qui va gagner l'élection. Puis selon les derniers sondages, dont le plus récent qui est sorti hier, ça serait le PQ.
Exactement. Normalement, ce serait le PQ. Vous, qui voulez-vous voir gagner aux élections? 418-971-102. Moi, honnêtement, présentement, je suis la campagne électorale. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup les programmes électoraux. Je suis quelqu'un, je l'ai dit, qui vote pour le député de sa circonscription. Puis là, avec mon déménagement, je suis dans Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Puis ça va être nouveau pour moi de voter là. Fait que je suis en train de faire le tour.
Regardez c'est qui les candidats,
quoi leur historique. Puis aussi, c'est quoi nos besoins. Là. Je connais moins les besoins à Beauport avec mes enfants qui sont encore à l'école à Charlebourg puis qui jouent pour hockey Charlebourg. Puis moi, je suis un petit gars de la basse ville, très impliqué encore dans ma communauté. Fait qu'on dirait que j'ai plus tendance à suivre ce qui se passe dans Tachereau que dans Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Alors, il va falloir que je m'y mette sans l'ombre d'un doute. Mais à l'heure actuelle, je dois l'admettre, moi, je trouve que le parti politique qui a les meilleures idées, que le meilleur programme présentement pour moi, c'est le PQ. C'est le PQ de Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis moi, contrairement à plein de personnes, j'ai pas la crainte du référendum. Honnêtement, à l'heure actuelle, je suis pas convaincu par la souveraineté du Québec, mais j'ai pas cette crainte-là qu'on ait demandé aux gens s'ils veulent devenir un pays ou non. Je trouve que c'est un bel exercice démocratique. Alors, tu sais, moi, là, il y a les campagnes de peur à la partie libérale qui me disent « Attention, le référendum, on va tous mourir. » Ça m'attire pas.
Mais moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est de voir certains acteurs, là, près ou de loin, du Parti libéral, clamer justement que c'est antidémocratique, là, la volonté du PQ de faire un pays. Tandis que, tu l'as dit, pour moi, c'est la chose la plus démocratique.
Ben
parce que même si le PQ arrive au pouvoir, ils ne peuvent pas claquer des doigts puis on se sépare du Canada, ça va être un vote populaire. Vous, là, qui nous écoutez, vous allez tous être demandés à voter là-dessus, puis la population parlera, puis on prendra acte de la décision à ce moment-là. Mais de là, de parler à quelque chose d'antidémocratique. Puis moi, ce que je peux reprocher aux fédéralistes, c'est que souvent, on essaie de nous dire pourquoi, mettons, un référendum, un pays du Québec serait pas bon, mais on ne montre jamais vraiment les avantages qu'on a en ce moment de garder avec le Canada. On essaie beaucoup de diminuer le référendum au lieu de monter, mettons, le fédéralisme. Moi, j'entends encore des arguments qui vont me convaincre qu'on est mieux de rester dans le Canada.
C'est des bons points que tu amènes parce que moi, honnêtement, ma réflexion a vraiment changé avec le temps. Je l'avoue, moi, j'étais un fédéraliste pur et dur à l'époque. Je pense que c'est le fait que mon père est un fédéraliste pur et dur, puis ça m'avait été transmis. Ce qui n'avait pas été transmis à mon frère, là, qui a voté oui au référendum de 95.
Il a vu la lumière.
Moi, j'avais pas encore, il a vu la lumière. Ouais, tu sais, c'est juste quand il y a un commentaire devant, ils vont dire que ça me tente plus. Mais bref, tout ça pour dire que moi, la troisième voie de la CAQ, elle m'a beaucoup parlé en termes de laïcité, en termes de nationalisme, en termes d'identité québécoise. Puis pour de vrai, je sens que c'est comme un premier pas pour moi personnellement, puis là, je parle de moi personnellement, vers une possibilité de voter oui au prochain référendum. Parce que je me rends compte à quel point le fédéral joue encore dans nos compétences provinciales. Je me rends compte à quel point le Canada pense pas comme nous autres, juste la laïcité, par exemple, qui pour moi est hyper important. Et pourtant, j'ai été élevé dans la religion catholique. J'étais obligé d'aller à la messe le dimanche. J'ai fait partie des patros avant qu'ils enseignaient la pastorale. Mais moi, là, dès que les premières agressions sexuelles sont sorties avec la religion catholique, j'ai dit « OK, je sors tout ça de ma vie. Ça correspond tellement pas à mes valeurs. » Il y a des valeurs que la religion catholique a que je partage, qui soit le respect, l'entraide. Mais je ne respecte plus les religieux catholiques, malheureusement. Et ça fait en sorte que juste qu'au Canada anglais, on remette toujours en cause le droit à l'avortement, alors qu'ici, au Québec, on l'a vu pas plus tard que cette semaine, avec la polémique autour de Dominique Dumas, on comprend très bien qu'on veut pas de débat là-dessus. Bien, j'ai l'impression que tranquillement, je m'en vais vers là, parce que je tiens tellement à notre culture et à notre identité québécoise. Puis là, je sens que le Canada est toujours en train de tenter de nous faire perdre ces acquis-là qu'on a qui sont précieux là, pour notre identité. Là.
Mais tu sais, on l'a vu justement, François Legault, qui était un ancien du PQ, un ancien souverainiste, lui justement a sorti la troisième voie justement pour sortir du débat référendaire. Puis lui, l'idée c'était d'aller discuter justement avec le gouvernement fédéral puis aller chercher des acquis pour le Québec. Là, on comprend peut-être qu'avec Justin Trudeau, pas beaucoup d'atomes crochus de ce côté-là. Christine Fréchette, Mark Carney, ça semble mieux s'entendre.
Un peu plus.
Mais
oui.
Ça reste qu'après 8 ans, il n'y a pas eu vraiment de gain en négociant avec le Canada, parce que selon moi, le Canada n'a pas d'intérêt non plus à donner plus de pouvoir au Québec, parce qu'ils savent justement la réalité ici. Puis moi, ça me fait rire ensuite quand on débarque à Longueuil puis on annonce 10 milliards pour les infrastructures québécoises. On vous donne, mais au final, ils nous redonnent notre argent parce que tout le monde, la dernière nouvelle, tout le monde paye des impôts.
Mais en mettant leurs règles, c'est ce qui est dans des compétences provinciales. Moi, c'est vraiment là, c'est vraiment ce genre de geste-là. Qui vient me fâcher, qui vient me chercher, mais surtout qui vient me réaffirmer dans mon identité québécoise.
C'est ça, puis moi j'inviterais, il y a beaucoup de gens qui vont aller en vacances ailleurs au Canada, avec la situation aux États-Unis.
Ben oui, je suis allé à Toronto, moi, par exemple.
Si vous restez au Québec, c'est autre chose, mais si vous sortez là, de la province, vous allez dans les autres provinces, parlez donc aux Ontariens, que vous soyez en Colombie-Britannique ou même dans l'Est canadien, parlez-leur, vous allez devoir leur parler anglais, là, parce qu'il n'y en a pas un qui va être capable de vous parler en français. Mais vous allez vous rendre compte qu'on est vraiment des cultures complètement différentes. On n'a pas nécessairement les mêmes priorités. Et fait que ça, c'est l'aspect identitaire. Mais sur plein d'autres aspects, je pense pas qu'on est au diapason avec le reste du Canada.
Non, en effet, t'as entièrement raison. Je tiens à ma langue. Toi, tu vis à Montréal. Tu le vois comment la langue est en train de prendre le bord, la langue française,
c'est un
au détriment de l'anglais. C'est un très, 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 très gros enjeu. Je suis très sensible à cette particularité-là. Je trouve que la langue française, c'est une belle langue. Je suis fier, mes enfants parlent bien anglais. Je suis très content de ça parce que ça va leur ouvrir des portes, évidemment.
Ah oui, moi aussi, je parle anglais.
Au niveau du travail. Je le sais qu'ils vont élever leurs futurs enfants français, puis que ça va continuer comme ça. C'est notre identité, c'est le français. Puis, ça me rejoint beaucoup aussi les politiques en immigration, veut pas. Quand on regarde ce qui se passe en France, je trouve justement qu'autant la CAQ que le PQ, au niveau des quotas d'immigration, je trouve qu'ils prennent des bonnes décisions. Alors, vraiment, c'est ça. Je trouve que le Parti québécois, à l'heure actuelle, a le meilleur programme. C'est à suivre. Il reste 2 mois à cette campagne électorale. Kevin qui nous écrit « Ancien conservateur de mes 18 ans à 41 ans. Maintenant, je vote PQ. » Si, Kevin, tu veux nous détailler pourquoi tu votes PQ, ça serait très intéressant. J'ai dit qu'on parlerait des trottinettes électriques. Camille qui nous écrit « Comme a dit quelqu'un que je connais, il y a deux types de gens qui font de la trottinette électrique. Ceux qui ont déjà eu un accident et ceux qui vont avoir un accident. » Écoute, Camille, je suis quasiment d'accord avec toi, ou ceux des adultes responsables qui l'utilisent comme ma conjointe, puis qui disait « Je vais m'organiser pour pas avoir d'accident », parce que c'est de plus en plus fréquent. Il y a un article dans la presse ce matin, justement, qui raconte l'histoire de deux jeunes garçons qui sont venus en contact avec un camion de livraison UPS. Dans le cas là, des deux garçons, commotion cérébrale, des fractures. Il y a même un garçon qui se fait amputer le bout de l'index. Donc, les gars roulaient à sens inverse très rapidement sur la piste cyclable. Ils sont arrivés à une intersection. Bon, ils disent que le camion UPS n'a pas dit qu'il allait tourner, mais quand même, il était à sens inverse, tu vois qu'il est très rapide. Donc, ils ont été imprudents, malheureusement, ces deux garçons de 13 et 14 ans-là. Et ça n'arrête pas les chiffres d'augmenter. En un an, entre 2024 et 2025, il est passé de 71 à 156, selon le chiffre de la SAC, les accidents majeurs concernant les trottinettes électriques. L'hôpital de Montréal pour enfants déplorait aussi en juin une hausse des blessures graves liées à cet engin. Fait qu'on parlait de vélo cette semaine, mais je pense qu'il faut parler de trottinettes électriques. Puis là, je pense que les parents qui mettent des trottinettes électriques dans les mains de leurs enfants. Moi, je l'ai fait, là. Elliot a sa trottinette électrique depuis qu'il a à peu près 15 ans. Il est rendu à 18. Ça prend de la sensibilisation, ça prend du contrôle de vitesse. Puis soyez sûr que votre kid va bien comprendre parce que c'est pas le temps qu'il y ait un mort sur nos routes. C'est pas le temps qu'il y ait un jeune qui meurt. Puis... est-ce qu'on devrait mieux réglementer ça, Alex? T'sais, je me pose la question. Est-ce qu'on devrait...
Ben, il va falloir que le gouvernement, à un moment donné, s'attarde sur cette question-là parce que tu l'as dit, c'est un peu un nouveau phénomène. Moi quand j'étais ado, là, ça n'existait pas, les trottinettes électriques. Là,
non.
C'était dans les balbutiements.
C'était les petites trottinettes où tu poussais avec ton pied. Fait qu'à un moment donné, il y avait une vitesse maximale beaucoup moins élevée. Là.
Ça n'avançait pas, ces affaires-là. Puis déjà, c'est un peu encadré au Québec. Là. Ça prend minimum 14 ans. Ouais. C'est obligatoire d'avoir un casque aussi. Il y a certaines limite de vitesse, mais ce qu'on se rend compte, c'est que des trottinettes électriques qui sont achetées par exemple à l'étranger, il y en a qui vont pas respecter là, les limites de vitesse qui sont en place ici. Là. Il y en a qui peuvent aller, je sais pas si tu me disais pendant la pause, jusqu'à comme 70 km/h. Hey, 70 km/h, ça commence à être vite.
Ben, exactement. Puis l'autre jour, j'étais sur le boulevard Louis XIV, puis on en parlait comme des pires places pour les cyclistes, puis avec raison, parce que c'est un boulevard où ça roule vite, puis il n'y a pas de piste cyclable. Il y a bien des endroits où on fait des corridors Vivacité. On l'appelait Vélocité avant, Québec. Je pense que Louis XIV en mériterait un, là, honnêtement. Puis là, ben, c'est parce que je voyais les jeunes font de la trottinette sur le trottoir, mais là, quand ils tournent la tête puis ils voient qu'il n'y a pas trop de char, ping, ils jumpent dans la rue. Puis là, ils rejumpent sur le trottoir. Ils s'amusent. Ils sont à 50 km/h à peu près. Mais je me disais, crème, s'il y en a un qui se plante, là. Ah, moi, il faut que je garde une distance sécuritaire, mais tu sais, je veux dire, ça roule vite sur le boulevard Louis XIV. Là. Pas tout le monde va garder une distance sécuritaire, puis même moi, je peux être pris au piège. Je suis pas meilleur qu'un autre. Là. Donc, il y a vraiment des comportements dangereux de nos jeunes avec les trottinettes électriques. Là.
Ben oui, puis ça va aussi avec les appareils, tout ce qui est motorisé. Récemment, là, le gouvernement est obligé de légiférer parce que là, il y avait certains, on appelle ça les appareils de transport personnel motorisé qui roulaient justement sur tout ce qui est les pistes cyclables. Mais ça, c'est des engins qui sont beaucoup plus lourds. Puis c'est ça qu'on expliquait, c'est que lorsqu'il y a une collision, par exemple, avec un cycliste, que lui a un vélo très, très, très léger, bien là, c'est le cycliste là, qui mange la plupart des dommages. Donc, on a encadré ça, mais maintenant, on ne peut plus circuler avec ce genre d'appareil-là du côté des pistes cyclables. Pour les trottinettes électriques, c'est encore permis pour l'instant, mais selon moi, éventuellement, il va peut-être falloir les envoyer dans la rue parce qu'on sait souvent, les pistes cyclables, c'est pas loin des trottoirs. Fait que là, il y a des gens à pied aussi qui vont traverser.
Vraiment?
Le risque de faire une collision, puis là, on le disait, là, tu peux aller jusqu'à 50-70 km/h. Donc, si tu rentres dans un piéton à cette vitesse-là, ben tu laisses pas beaucoup de chance à l'autre personne.
Non. On finit avec des manchettes de sport, Alex. Ça continue les gros contrats pour les porteurs de ballon. Jonathan Taylor, des Colts d'Indianapolis, qui signe une prolongation de contrat.
Ben oui, signé un contrat de 2 ans pour 44 millions. Il y aurait 39 millions là, du montant qui serait garanti. Donc, la majorité du montant, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus aussi dans la NFL.
Oui.
Des montants garantis qui sont plus hauts parce qu'on le sait, eux, les contrats sont pas comme dans la NHL. Si les joueurs se blessent et ton contrat n'est pas garanti, ben, l'équipe peut te couper et tu te ramasses le bec à l'eau. Puis, Jonathan Taylor, honnêtement, les Colts n'avaient pas le choix de lui donner le contrat.
Vraiment?
C'est l'attaque complète des Colts. On a vu Daniel Jones. Ça avait fonctionné un peu en début de saison. Puis lorsque la chaîne a débarqué, ben, on s'est rendu compte que les limites de Jones étaient bien là. On a vu Jones des Giants de New York. Donc moi, je pense que pour les Colts, on n'avait pas le choix de donner cet argent-là à Jonathan Taylor, qui est la pierre angulaire de leur attaque.
1585 verges l'an passé au sol. Il a terminé 3e dans la NFL. 18 touchés. Il a été le porteur de ballon qui a marqué le plus de touchés. C'est un gars qui peut jouer pendant les 3 essais.
Ben oui.
Donc c'était 1431 verges l'année précédente. Son année record, on s'en m'en souviens, en 2021, 1811 verges. Il avait également marqué 18 touchés. C'est tellement un gars régulier. En effet, les Colts en avaient besoin. Il a 27 ans. Donc là, si je compte bien, c'est une prolongation de contrat. Donc, il va commencer l'an prochain. Hein, ou ça commence immédiatement?
Non, ça commencerait l'an prochain.
Ça commencerait l'an prochain. Alors, ça va l'amener à l'âge de 30 ans, cette prolongation de contrat-là. Souviens-toi, on parlait du fameux 28 ans où il y a beaucoup de porteurs de ballons qui cassent.
C'est en janvier prochain. Donc, il pourrait, par exemple, avoir une saison difficile, puis il y aura encore 2 ans à 22 millions.
Exactement.
Il y a un certain risque, mais ça reste la santé. Si Jonathan Taylor reste en santé, selon moi, il va produire. Mais on le sait, les porteurs de ballon sont à risque de soit des blessures, que ce soit au niveau des chevilles, des genoux, les hanches. Tout ça, c'est très à risque lorsqu'on est un porteur de ballon. Donc, s'il y avait blessure, c'est sûr que c'est un contrat qui va moins bien vieillir. Mais sinon, moi, je m'attends à ce que Jonathan Taylor, on le dit, là, 1500 verges par année, c'est à peu près ça qu'il va aller chercher avec une quinzaine de touchés.
Vraiment. En terminant l'émission et en terminant en sport, il y a Aaron Donald, l'ancien joueur de ligne défensive des Rams de Los Angeles, qui joue en plein centre de la ligne défensive, qui était le meilleur, là, justement, de la NFL avant de prendre sa retraite après la saison 2023, qui là s'est entraîné avec l'équipe hier. Fait que vous revenez.
Ben, c'est un peu la rumeur qui court, là, on le sait. Lui avait quitté quand même assez jeune. Là, il était encore très performant dans les meilleurs de la ligue. Lui voulait préserver son corps. Il a pris quelques années de repos. Donc, est-ce qu'il a pu se remettre en forme, peut-être guérir certaines blessures qui perduraient? Mais c'est sur toutes les lèvres. Puis ici, il arrivait à faire un duo avec Myles Garrett. Attachez votre sucre dans cette division-là avec les Seahawks puis les 49ers. Ça va barder. Les Cards, on n'en parlera pas, là, vont finir dernier de la division, mais ça promet du côté des Rams. Selon moi, une annonce pourrait venir dans les prochaines heures, sinon les prochains jours.
Pas mal certain. Il est très ami avec Scott McVay, l'entraîneur des Rams, avec Matthew Stafford, le quart arrière de Los Angeles. Donc, s'il revient, je pense qu'on peut mettre les Rams à titre de favori pour le trophée du Super Bowl. Merci d'avoir été à l'écoute. Le point de Maxui avec Pascal CV et Mathias Turcotte. Je reviens avec On en jase avec Mathias Turcotte. Et évidemment, Denis Véro et Audrey vont fermer la journée de 14 à 18 heures. Alex Laramie, on se parle demain.
À demain.
Salut!